La meilleure forme de gouvernement n'est pas la démocratie, mais un roi bienveillant. D'accord, c'est un oiseau rare, mais ce fut le cas du bon roi Josias qui, avec plaide du prophète Jérémie, a essayé de renverser la vapeur dans le royaume de Juda en déracinant l'idolâtrie et en remettant en vigueur le culte de l'Éternel. Nous sommes dans la seconde série du message de Jérémie qu'il donne au peuple avant qu'on ne découvre un exemplaire du livre de la loi enfoui quelque part dans le temple. Les efforts conjugués du roi et du prophète entraînent des réformes religieuses significatives, mais ce ne sera qu'un feu de paille, parce que le retour du peuple à Dieu est très superficiel, ce que l'Éternel le reproche d'ailleurs, quand Jérémie dit « Juda, la perfide, n'est pas revenu à moi de tout son cœur, son retour n'était qu'un leurre, l'Éternel le déclare ». Les Israélites restent donc indifférents à Dieu, alors même qu'ils continuent à les supplier en disant « Revenez donc, enfants rebelles, et je vous guérirai de vos égarements ». Je commence de lire dans le chapitre 4 du livre de Jérémie. « Si tu reviens, ô Israël, si tu reviens à moi, l'Éternel le déclare, si tu ôtes devant moi tes abominations, sans plus errer ça et là, de là, si tu prêtes serment en disant « L'Éternel est vivant », si tu le fais en respectant la vérité dans la droiture et la justice, alors les nations, l'une l'autre, seront bénies par l'Éternel et tireront de lui leur gloire. Car voici ce que l'Éternel déclare aux hommes de Juda et à Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau, ne semez plus parmi les ronces, purifiez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs. Ô hommes de Juda, habitants de Jérusalem, car sinon ma colère jaillira comme un feu, et elle brûlera sans que nul ne l'éteigne à cause de la perfidie de vos agissements. » Sous la menace de jugements sévères, Jérémie appelle les Israélites à un changement radical, à déraciner l'idolâtrie qui est dans leur cœur et à retourner à l'Éternel. Suite aux réformes religieuses entreprises par le roi Josias, les Juifs ont amendé leur conduite, mais c'est pour la forme, en attendant que l'orage passe. C'est du rafistolage, un peu comme quand on donne un coup de peinture sur un plafond fissuré. Jusqu'à présent, la prédication de Jérémie a eu le même effet qu'une semence qui tombe sur un sol dur non travaillé. Ça ne germe pas. À moins d'en avoir expressément reçu l'ordre, comme Jérémie, il est futile d'annoncer la parole de Dieu à des moqueurs. Matthieu rapporte qu'un jour Jésus a dit « Gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré, et ne jetez pas vos perles devant les porcs. » Les personnes qui sont endurcies ont besoin que le Saint-Esprit fasse une œuvre en eux, afin qu'ils éprouvent une conviction de péché. Alors seulement, ils se repentiront et deviendront réceptifs à la parole de Dieu. Je continue le texte. Adresser un appel au peuple de Juda et qu'on le fasse entendre dans tout Jérusalem, sonner du cor à travers le pays. Criez à pleine voix et dites, rassemblez-vous, rallions les villes fortifiées, dressez un étendard du côté de Sion, mettez-vous à l'abri et ne restez pas là, car je ferai venir un malheur du côté du nord et une grande catastrophe. Un lion surgit de son fourré. Celui qui détruit les nations et s'est mis en route. Il sort de son repère pour ravager votre pays, pour dévaster vos villes et les laisser sans habitants. Le lion représente probablement Nebuchadnezzar. Le son du cor joue le même rôle que celui des cloches d'une église. Il est utilisé pour rappeler les soldats au combat ou les fidèles pour les fêtes religieuses ou encore pour donner un signal d'alarme. Les habitants de Juda ont assisté à la destruction du royaume des 10 tribus du Nord. Maintenant, ça va être leur tour. Jérémie annonce l'invasion babylonienne en avertissant les habitants des campagnes qu'ils doivent se réfugier dans les villes fortifiées. Je continue. C'est pourquoi, revêtez des habits de toile de sac, pleurez, lamentez-vous, car la colère ardente de l'Éternel ne se détourne pas de nous. Et il arrivera en ce jour-là, l'Éternel le déclare, que le roi perdra tout courage, et les ministres avec lui. Les prêtres seront consternés, et les prophètes stupéfaits. Parce que les Israélites refusent de se repentir, Dieu les renie. Matthieu rapporte que suite au rejet officiel de Jésus par les dirigeants juifs, il a pleuré sur Jérusalem tout en disant « Maintenant, votre maison va être abandonnée et restera déserte. » Il annonçait la destruction de la nation par les Romains, ce qui arriva en l'an 70 de notre ère. Dieu est patient et miséricordieux, mais ceux qui le repoussent seront jugés avec la plus grande sévérité. Le grand drame de notre temps est que les gens rejettent Dieu sans chercher à savoir qui il est. Or, la seule façon de le connaître est d'étudier sa parole. Seulement, les Écritures sont parfois difficiles à comprendre pour l'homme moderne parce qu'elles sont une collection de 66 livres écrits par une quarantaine d'auteurs sur une période de 3000 ans. Voilà pourquoi j'essaye de mettre les Écritures à la portée de tous en les remplaçant dans leur contexte historique et culturel et en les commentant. Je continue le texte. Alors je répondis, « Ah, Seigneur éternel, tu as vraiment trompé ce peuple et tout Jérusalem quand tu leur as promis, vous vivrez en paix, alors que maintenant l'épée attente à notre vie. » Jérémie est horrifié par son message de jugement. En réalité, ce sont les faux prophètes qui ont trompé le peuple en leur faisant croire qu'il y avait la paix. Mais l'Éternel, qui est le Dieu souverain, l'a voulu ainsi parce qu'il est décidé de châtier Juda pour son idolâtrie et sa rébellion contre lui. Je continue le texte plus loin. « Nettoie ton cœur, Jérusalem, de sa méchanceté et tu seras sauvé. Jusqu'à quand seras-tu habité de projets malveillants ?» Comme le jugement est à venir et directement lié à la conduite du peuple, Jérémie passe souvent des menaces aux exhortations. La nation n'est pas encore perdue si le peuple se repent sincèrement et retourne à l'Éternel. Je continue. Une proclamation se fait entendre depuis Dan et l'on annonce le malheur sur les monts d'Éphraïm. Dan est la tribu installée le plus au nord du pays d'Israël. Son territoire est donc toujours envahi le premier. Les monts d'Éphraïm sont une région montagneuse au centre de la Palestine, à une vingtaine de kilomètres au nord de Jérusalem. Jérémie décrit la progression des Babyloniens qui se dirigent vers Juda. Le prophète Ésaïe a usé du même mouvement oratoire quand il a évoqué étape après étape l'arrivée des Assyriens. Je continue le texte plus loin. « Voilà ce que te valent ta conduite et tes actes. Tout cela est le fruit de ta méchanceté, oui. Cela est amer, cela pénètre jusqu'en ton cœur. » Nouvelle exhortation au peuple à qui Jérémie rappelle les raisons d'ordre moral du désastre à venir. Je continue. « Je suis bouleversé, je me tords de douleur et mon cœur bat très fort. C'est le tumulte en moi. » Je ne peux pas me taire car j'ai bien entendu le son du cor, le cri de guerre. Jérémie décrit ce qu'il voit arriver et exprime sa douleur. Son identification à son peuple est touchante. Le prophète ou les prophètes sont les premiers à souffrir de leur message de jugement. Je continue plus loin. Ah, mon peuple est stupide, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés qui ne comprennent rien. Ils n'ont d'intelligence que pour faire du mal, mais ils ne savent pas faire ce qui est bien. Jérémie rappelle une fois encore les causes morales du jugement de la nation. Cette accusation portée contre les Israélites est applicable aujourd'hui encore à toute la population de notre planète. Je continue plus loin. Car ainsi parle l'Éternel, « Toute la terre est dévastée, mais je ne la détruirai pas entièrement. » La différence entre le peuple de Dieu et les autres nations, Sodome, Édom, Moab, la Syrie, Babylone, est que l'Éternel se réserve toujours en Israël un petit reste auquel se rattachent toutes les promesses faites aux ancêtres. C'est de cette façon que Dieu fait concorder sa justice avec sa fidélité. Je finis de lire le chapitre 4 en compressant. Que fais-tu, ville dévastée? Tu te vêts d'écarlate, tu mets des bijoux d'or, tu fardes tes paupières avec de l'antimoine. C'est en vain que tu te fais belle. Tes amants te méprisent, ils veulent te tuer. J'entends comme la complainte d'une femme en travail. Ce sont les cris que poussent les filles de Sion. Elles suffoquent, elles tendent les mains. Malheur à moi, je suis à bout de souffle face au tueur. L'antimoine est une poudre noire qui sert à farder les paupières. Les amants sont tour à tour l'Égypte ou la Syrie, les nations avec lesquelles Jérusalem cherche à s'allier. Ces magouilles politiques sont comparées aux artifices d'une courtisane, mais elles échoueront parce que l'ennemi est décidé à détruire Juda. Nous arrivons au chapitre 5 du livre de Jérémie que je commence à lire. Allez de ça, de là, dans les rues de Jérusalem. Observez donc et constatez, et cherchez sur les places si vous trouvez un homme, s'il y a un seul homme qui pratique le droit et qui s'efforce d'être fidèle. Dans ce cas, je pardonnerai cette ville. Selon la petite histoire, Diogène, le fondateur du cynisme, parcourait la ville d'Athènes en plein jour muni d'une lanterne à la recherche, disait-il, d'un honnête homme. Et ce qu'il paraît, il n'en a jamais trouvé un seul. Alors que l'Éternel demande 10 justes pour pardonner à cet homme, il n'en demande qu'un à Jérusalem. Mais il n'y a pas un seul homme qui puisse, en toute légitimité, par son attitude droite et juste, plaider la cause de Juda et obtenir son pardon. Jérémie, n'étant pas originaire de Jérusalem, il ne compte pas. Je continue. Car quand ils jurent, l'Éternel est vivant, leurs serments sont trompeurs. Ô Éternel, tes yeux ne peuvent s'attacher qu'à la fidélité. Tu as frappé ces hommes, mais ils n'ont pas été touchés. Tu les as écrasés, mais ils ont refusé d'accepter la leçon. Ils sont rendus leur face plus dure que le roc. Et ils ont refusé de changer de comportement. Jérémie mentionne plusieurs fois que le peuple est endurci, qu'il refuse d'écouter la parole de Dieu et de changer d'attitude. Plus Jérémie est ferme dans ses remontrances au peuple, et plus ce dernier tient tête à Dieu. Je continue le texte plus loin en compressant. Tous ensemble, petits et grands, ils ont brisé le joug, ils ont rompu les liens. C'est pourquoi surgira le lion de la forêt pour les frapper, et le loup de la steppe viendra les décimer. La panthère est tapie près de leur ville, et tous ceux qui en sortiront se feront déchirer, parce que leurs révoltes se sont multipliées, et leur trahison ne cesse de s'accroître. Le lion, le loup et la panthère sont trois animaux habitués à déchirer et dévorer leurs victimes. Ils représentent l'envahisseur babylonien et le châtiment brutal que va subir Juda. Je continue. Avec cela, pourrais-je encore te pardonner? Tes enfants m'ont abandonné, et ils prêtent serment par ce qui n'est pas Dieu. Moi, je les ai comblés, et ils sont adultères. Ils vont en foule aux maisons des prostituées. Ce sont des étalons bien repus et pleins de désirs, et chacun d'eux hennit après la femme du prochain. Les sanctuaires des idoles sont d'habitude des lieux de débauche. Les hommes ne s'y rendent plus à la dérobée, mais ouvertement pour recourir au service des prostituées sacrées, ou alors ils séduisent les femmes du voisin. Cette immoralité sans scrupule montre que la nation est mûre pour le jugement. Je continue plus loin. Escaladez ses murs et détruisez sa vigne, mais ne l'achevez pas. Arrachez ses sarments. Ils n'appartiennent pas à l'Éternel. La vigne de l'Éternel est livrée aux Babyloniens afin d'émonder les sarments qui ne lui appartiennent pas. Mais la souche n'est pas extirpée. Je continue plus loin. Quant aux prophètes, ils sont que du vent. Ils n'ont aucun message. Les malheurs qu'ils annoncent, qu'ils leur soient infligés. Ici, ce sont les Israélites qui parlent. Comme ils ne croient pas à la menace d'un châtiment divin, ils rejettent en bloc le message des prophètes authentiques envoyés par l'Éternel et dont Jérémie fait évidemment partie. Je continue plus loin en compressant. « Je vais amener contre vous une nation de loin. » Ô peuple d'Israël, l'Éternel le déclare, c'est une nation très ancienne, une nation impérissable dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprends pas les propos. Il, mon peuple, ne dit pas dans son cœur, révérons l'Éternel, lui qui est notre Dieu. Il nous donne les pluies, chacune à sa saison, les pluies d'automne et celles du printemps. C'est lui qui nous réserve les semaines fixées pour faire la moisson. Mais ce sont vos péchés qui ont tout dérangé, ce sont vos fautes qui vous ont privé de ses biens. C'est Dieu qui donne la pluie par le moyen des forces naturelles. Les semaines pour faire la moisson vont de Pâques à la Pentecôte, la dernière étant appelée la fête des semaines. À l'époque où ces messages sont donnés par Jérémie, le pays traverse une période d'intense sécheresse, qui est un premier jugement, mais le pire est encore à venir. Dieu va châtier Juda avec les Babyloniens dont la civilisation remonte alors déjà à plus de 2000 ans. Je finis de lire le chapitre 5. Des choses stupéfiantes, des abominations ont lieu dans le pays. Dans leurs prophéties, les prophètes ne disent que mensonges, les prêtres dominent au nom de leur autorité. Mon peuple, lui, trouve cela très bien. Mais que ferez-vous, donc, après ce qui va arriver? Tout Juda est coupable, des plus petits aux plus grands, les faux prophètes trompeurs, les prêtres qui ont soif de pouvoir, et le peuple dans sa totalité qui est friand de toute cette mascarade. Je commence à lire le chapitre 6. « Fuyez, Benjamite, quittez Jérusalem, sonnez du cor à Tekoa, élevez un signal au-dessus de Ben-Hakkerem, car du nord arrive un malheur et une grande catastrophe. » Jérémie lui-même, de la tribu de Benjamin, s'adresse à ses compatriotes parce qu'étant attaqué par le nord, ils cherchent tout naturellement refuge à Jérusalem qui est située sur leur territoire. Mais le prophète leur dit que c'est plus au sud qu'il leur faut fuir car Jérusalem elle-même sera conquise. Je continue. La belle et la voluptueuse, la fille de Sion, je la réduis au silence. Des bergers monteront vers elle, suivis de leurs troupeaux. Ils planteront tout autour d'elle leur campement de tentes et chacun fera paître ses bêtes sur son lot. La destruction de Jérusalem va punir les raffinements de son luxe. À tous les délicatesses d'une génération corrompue succéderont la brutalité du conquérant babylonien, qui est comparé à des troupeaux qui dévorent tout et dont les bergers sont des chefs de guerre. Je continue. Préparez-vous pour le combat contre elle. Debout, donnons l'assaut à l'heure de midi. Hélas, malheur à nous, car déjà le jour baisse et les ombres du soir s'allongent. Debout, attaquons-la de nuit, détruisons ses palais. Voici ce que déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Abattez donc ces arbres et dressez des terrassements contre Jérusalem, cité qui doit être punie, cité où règne la violence. Les ennemis arrivent devant les portes de la ville sainte à midi. Et dans leur ardeur combative, ils donnent immédiatement l'assaut malgré la chaleur du jour. Mais ils sont repoussés. Alors, ils donnent un second assaut nocturne, celui-là. Mais ils rencontrent une résistance opiniâtre qui les oblige à commencer un siège en règle. Ils coupent donc des arbres pour fabriquer des rampes d'accès aux remparts de la ville. Je continue plus loin. Car tous, petits ou grands, sont avides de gains. Tous, du prophète au prêtre, pratiquent la duplicité. Ils guérissent superficiellement mon peuple du désastre en disant « tout va bien, très bien », alors que rien ne va. Les responsables d'Israël trompent le peuple en proclamant la paix, ne lui procurant qu'une piètre et éphémère fausse sécurité. Par contre, les prophètes de l'Éternel qui disent la vérité sont taxés d'ennemis de la patrie. Je continue plus loin. Voici ce que dit l'Éternel. Tenez-vous sur les routes, regardez, informez-vous des sentiers d'autrefois. Quel est le bon chemin? Et puis, suivez-le donc, et vous y trouverez du repos pour vous-même. » Mais il est répondu, « Nous n'y marcherons pas. Alors j'établis des sentinelles parmi vous, qui vous ont dit, « Prêtez donc attention au son du cor. » Mais ils ont répondu, « Nous n'écouterons pas. » Le peuple de Juda a choisi de s'endurcir à l'égard de l'Éternel. Il a rejeté les préceptes de la loi et les avertissements des sentinelles, c'est-à-dire des prophètes authentiques. Je continue plus loin. Qu'ai-je à faire de l'encens apporté de Saba et du roseau aromatique venant d'un pays éloigné? Je n'aime pas vos holocaustes et je n'apprécie pas vos sacrifices. Ô communauté de mon peuple, revêt ton habit de toile de sac, roule-toi dans la cendre et prends le deuil comme pour un enfant unique. Repens-toi en lamentations amères, car le dévastateur fondra soudain sur toi. Situé au sud-ouest de l'Arabie, Saba fournit de l'encens à l'ensemble du monde antique. Mais ce ne sont pas des cérémonies religieuses qui apaiseront la colère de Dieu contre son peuple qui lui est rebelle. Ce qu'il désire est la repentance et une contrition sincère. Je continue plus loin et finis de lire le chapitre 6 de Jérémie. Voici, je t'ai placé comme celui qui teste les métaux au milieu de mon peuple pour que tu examines, que tu éprouves leur conduite. Ce sont tous des rebelles qui refusent d'entendre, qui vont semant la calomnie. Ils sont endurcis comme bronze et fer, et ce sont tous des destructeurs. Le soufflet souffle, et le plomb est dévoré par le feu. C'est en vain qu'on insiste pour faire fondre les scories. Les mauvais éléments ne se détachent pas. Ils seront appelés de l'argent de rebut parce que l'Éternel les a mis au rebut. Le plomb était autrefois utilisé pour l'épuration de l'argent. Le prophète est comparé à celui qui éprouve les métaux afin d'évaluer la valeur du minerai qu'il a devant lui, c'est-à-dire les habitants de Juda. Comme ils sont amalgamés au mal qu'on ne peut extirper, ils sont uniquement bons à être mis au rebut comme de vulgaires scories. Ça paraît sévère, mais il faut garder à l'esprit que l'Éternel est Dieu et toute désobéissance envers lui est un crime de lèse-majesté.